Bonjour chers amis, que le Seigneur vous accorde paix, joie et grâce aujourd'hui. Bonjour Stephen, bonjour cher ami. Je t'ai écrit, je t'ai posté une lettre, normalement demain matin tu l'as, si tout va bien. Voilà, je vais commencer par une petite prière. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui à 13h30, devant la ferme, ensoleillée, il y avait une camionnette polonaise qui a repris en charge plusieurs personnes, 6 personnes de chez nous. Donc, il y avait 3 adultes et 3 enfants et un bébé qui sont retournés en Ukraine. 3000 kilomètres. C'est un long trajet. Grâce à l'accueil en Belgique, elles retournent ensemble avec environ 5 à 6 000 euros dans leur poche pour pouvoir vivre et pouvoir subvenir à leurs besoins. Grâce à l'accueil en Belgique. Grâce à l'amour de Dieu. Et il est resté une dame. Une dame dont qui a 52 ans, qui est là depuis le début aussi, qui était venue avec. C'est un groupe de 10, une famille, plusieurs branches de la même famille. Et elle est venue au culte depuis le début et elle reste. Pourquoi? Sa maison était complètement rasée, il n'y a plus rien dans la région de Mariupol. Et si elle retournait, à 52 ans, il y a eu l'hypertension, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, eh bien, elle devrait loger, hiver comme été, dans une voiture. Donc, elle est restée chez nous, et par la grâce de Dieu, il y a des amis géorgiens qui sont là pour 4 jours, qui sont très gentils, qui ont été réfugiés pendant 14 mois chez nous, et qui parlent russe. Vous savez que la langue internationale de tout l'Est, c'est le russe, comme à l'Ouest, c'est l'anglais. Bien, le russe est parlé par des centaines de millions de personnes, même qui ne sont pas russes. Et donc, ils parlent gentiment. Tamila parle gentiment avec cette dame et lui fait oublier un petit peu le déchirement qu'elle vit pour le moment de voir repartir toute sa famille. Sa famille, pourquoi? Parce que les jeunes femmes ont des maris. Et elles, dans leur région, ont encore leur maison. Mais, Svitlana, dans sa région, à elle, tout près de Mariupol, tout est rasé. Et tout est dangereux. Et son mari, à 57 ans, ne peut pas venir. Il faut attendre 3 ans. Vous imaginez le long calvaire qu'elle va vivre. Mais enfin, elle est dans notre famille. On l'aimera autant qu'on pourra, que le Seigneur nous dira de le faire. Il nous montrera comment le faire aussi. Et elle a une chance, c'est qu'elle s'est ouverte à Dieu depuis qu'elle est venue. Donc, son mari a 57 ans, il conduit des véhicules de la Croix-Rouge, il apporte la nourriture aux blessés, aux réfugiés, parfois qui vivent dans des caves, qui vivent n'importe où. Et son mari aussi conduit des camions de blé, parce que c'est un pays qui est un pays de blé. Si vous ne le savez pas, le drapeau ukrainien, c'est bleu au-dessus, jaune en dessous. Bleu, c'est le ciel, jaune, c'est le blé. Voilà. Ça représente le symbole de l'Ukraine, le ciel et les céréales. 40 millions de tonnes de blé, tous les ans, sont produits par l'Ukraine pour nourrir de nombreux pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Italie, la Tunisie, etc., la Libye. Évidemment, est-ce que ça va être encore possible? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un trouble, un déséquilibre important dans tous ces pays d'Orient? Si le blé ne leur arrive pas à cause des armées russes. Pour ce qui est de la dame qui reste chez nous, Nous étions en train de faire, au début, la première quinzaine qu'elle était là, donc il y a à peu près 4 mois, en train de faire de la farine dans notre grange, en un moulin, en notre blé bio du champ. Et tout d'un coup, elle parle avec les autres, elle prend le téléphone Google Translate, elle nous explique qu'elle avait eu un songe, et dans le songe, elle avait vu la maison, et à l'intérieur de la maison, la grange, avec le moulin, elle s'était vue faire de la farine avec des personnes dans notre maison. Un mois avant de partir d'Ukraine, de la région de Mariupol, elle avait donc été avertie par le Seigneur. Et donc, elle est restée. Je pense que la bénédiction est sur cette femme. Nos filles sont très gentilles. Elles sont parties à la piscine avec elle l'après-midi, et cette famille géorgienne. Quant à la famille géorgienne, je tiens à vous dire ceci. Quand ils sont arrivés, ils étaient extrêmement malheureux. Encore beaucoup plus malheureux que les Ukrainiens que nous avions. Et ils avaient l'hépatite B et C, parce que M. Poutine avait envoyé des bombes bactériologiques, un type de l'hépatite B et C, inguérissable ici en Occident. Donc, nous avons prié, loué le Seigneur et pratiqué l'onction d'huile, et donc, ces personnes ont été guéries, les parents et les enfants. Que Dieu soit à l'honneur, que Dieu soit à l'honneur dans ce qu'il a fait. Cette famille reste toujours en contact avec nous et ils sont là et ils portent la joie et la consolation à cette femme qui est seule. Ils partent une semaine et puis ils reviennent pour le camp et leur fils aîné revient pour le camp. Voilà les miracles de Dieu. Les miracles de la foi, comme Jésus l'a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, chers amis, quelle mission le Christ t'a-t-il confiée? Quelle mission? Matthieu 25, 14, 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna à l'un 5 talents, 2 à l'autre, un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Sachez bien qu'un talent, c'est quelque chose de très précieux. C'est une monnaie très forte à cette époque-là. Chacun selon sa capacité, dit la Bible, dit l'apôtre. Mais cet enseignement que donne le Seigneur Jésus est une parabole. Une leçon pour qui veut écouter, comprendre et surtout obéir. C'est une réalité révélée. Elle est essentielle pour le temps que nous passons sur terre. Le jeune homme de 16 ans, de cette famille chrétienne, me voyait travailler. Je préparais un coffrage pour couler une dalle. Et donc, il venait tout près de moi. Nous avons parlé de ses dons, de ce que le Seigneur pouvait faire avec ses dons. Il écoute. La réalité révélée, c'est que nous avons tous des dons et que nous passons sur terre un certain temps, nous sommes appelés à les mettre en valeur. Et cette parabole de Jésus, Matthieu 25, 14 et 15, met en valeur notre mission, le but de notre existence. Il n'y a aucun être humain qui a une existence inutile. Oui, Satan se charge de donner un message contraire. Oui, notre société déglinguée, qui est opposée à Dieu, donne un message contraire. Oui, le péché donne un message contraire, mais pas la parole de Dieu, ni le Saint-Esprit, ni notre Père des cieux. Faire fructifier l'être que nous sommes. Faire fructifier ce que Dieu nous a confié. L'Église du Christ, de Jésus-Christ, n'est pas un lieu de spectacle, un lieu de théâtre. Ce n'est pas un endroit où on joue une pièce, où les autres assistent et consomment. Ce n'est pas un supermarché où certains travaillent. Ce n'est pas un supermarché où certains approvisionnent les rayons et d'autres les vident, selon leurs humeurs et leurs goûts. L'Église ne ressemble pas du tout à tout cela. L'église de Dieu n'est pas un lieu de spectacle où quelques-uns jouent bien leur numéro, où les autres assistent. Ce n'est pas un supermarché où certains travaillent, approvisionnent les rayons et les autres viennent se servir selon leurs humeurs et leurs goûts. L'Église du Christ n'est pas non plus un club que des responsables animent pour instruire et distraire ses membres. S'il faut prendre une image, nous devrions plutôt prendre celle d'une construction à laquelle tous travaillent ensemble, chacun à sa place, chacun selon ses capacités, ou mieux encore, selon la place que la Bible nous donne, selon les capacités que la Bible nous révèle. Dans la prière, l'action de grâce, l'adoration, l'amour fraternel, il y a toujours moyen de trouver une place pour tout le monde pour servir Dieu. Si nous ne sommes pas un corps administratif, administré par la raison, par des gens de raison, si nous sommes un corps vivant, plein d'amour et de chaleur, où chacun dans sa chambre prie, invoque le Seigneur, lorsqu'il arrive en église, il trouve un regard positif sur chacun et il encourage chacun à développer les dons que Dieu lui a donnés. Il va prier, chaque chrétien va prier pour voir quels sont les dons d'un tel, d'une telle, de tel enfant et pour encourager les parents à mettre en valeur ce que Dieu demande, pas mettre en valeur l'enfant. La Bible nous dit que l'Église est un corps vivant. C'est un corps vivant. Vous savez bien, le doigt, l'oreille, l'œil, tout ça, personne ne peut se passer l'un de l'autre. C'est dans 1 Corinthiens 12. Paul nous dit cependant, tous sont-ils apôtres? On sait très bien que les apôtres sont terminés à partir de Jean, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, avec la révélation Apocalypse. Le collège apostolique est terminé. Il y a eu des imposteurs pour se faire appeler apôtres par la suite. C'est un titre qu'on ne peut pas s'attribuer aujourd'hui. Mais tous ont-ils la même responsabilité dans une église? Non. Non. Dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 29, vous êtes le corps de Christ, mais chacun pour sa part. Il y a donc une responsabilité chez certains plus grande que chez d'autres. Est-ce que c'est une domination? Est-ce que c'est une suprématie? Est-ce que c'est un titre de maître, de rabbi, de directeur, de père spirituel, de mère spirituelle? Non, pas du tout. Tous, nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns les autres et nous serons heureux. Jean chapitre 13, verset 1. Si nous le faisons. Mais l'Esprit Saint révèle à chacun sa place, sa tâche spécifique. Il y a des chrétiens qui souffrent parce que étant petits, ils n'étaient pas chrétiens. Ils ont vécu dans des familles où parfois ils ont été humiliés, abaissés. Ils étaient moins que rien, même frappés. Ou s'ils ont grandi et qu'ils ont eu malgré tout, des avanies, c'est-à-dire que parfois des gens ont profité de leur corps ou au moins de leur travail, ou les ont abaissés avec des mots, les ont humiliés. Beaucoup arrivent lorsqu'ils se convertissent, ils arrivent dans une église avec un passé assez chargé. Et il est clair qu'il faut beaucoup de prières dans une église, beaucoup d'intercessions. Rappelez-vous que les apôtres voulait, dans acte 7, avoir du temps à consacrer à la parole de Dieu, à la prière. C'est vital. Aujourd'hui, dans nos églises, nous manquons de pasteurs, évidemment, mais déjà il y a 20 ans, 25 ans, on demandait, c'était une enquête anonyme dans toute la région de Paris, combien de temps ils avaient pour prier, 10 minutes par jour. Ça ne correspond pas du tout aux critères des apôtres qui s'était fixé. Donc, il y a un déficit, il y a une faillite au niveau de la prière, de la consécration à la prière. Une faillite magistrale qui a amené des suites très pénible pour les églises. Alors, s'il n'y a plus de pasteur aujourd'hui, il y a des anciens. Ce sont des gens qui ont un travail, ou qui sont retraités, qui sont malgré tout limités dans leur santé, dans leurs moyens. Et ces personnes prennent des responsabilités. Et évidemment, ces anciens n'ont pas beaucoup le temps de se consacrer à la prière, au jeûne, à la prière et à la parole de Dieu. Il est très facile aujourd'hui de prendre un ordinateur, préparer un message, ils sont tout faits, de prendre une concordance, de regarder tous les mots et de faire un message. Ce n'est pas ça que Jésus a demandé. Jésus a demandé qu'on boive sa parole. C'est l'eau vive. C'est ce qu'il a proposé à la Samaritaine. Si tu connaissais le don que je veux te donner, cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. C'est de l'eau vive, c'est la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 6, verset 65 et 35, il a dit « La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. » Donc, comment peut-on être dans le Saint-Esprit si c'est l'ordinateur qui nous dit tout ce qu'on doit faire? Non, l'activité du Saint-Esprit est une activité entre Dieu et la personne. Le chrétien, la chrétienne, est Dieu. Et si quelqu'un a une tâche d'ancien, l'activité du Saint-Esprit se passe entre ce chrétien et le Seigneur. Il doit donc impérativement consacrer au moins une heure de prière tous les jours à la prière. Et encore, si possible, trois quarts d'heure dans la parole. Rien que par amour de Dieu. Et s'il doit faire des messages, il doit encore consacrer une heure ou deux à préparer des messages selon ce que l'Esprit Saint lui révèle comme étant important, quelle est la vraie nourriture à donner dans l'Église. Ce n'est pas l'ordinateur qui le sait, quelle est la bonne nourriture à donner à tel jour, à telle heure, à telle réunion, à tel culte. Nous devons faire attention, chers amis. Le corps de Christ est un corps vivant. Ce n'est pas un corps informatisé. C'est un corps fait de pierres vivantes, première épître de Pierre. C'est une nation sainte, c'est un sacerdoce royal. Tout se passe entre Dieu et nous. Attention à tous ces moyens qui nous dévient de l'œuvre du Saint-Esprit. S'il faut utiliser l'ordinateur, après avoir tout médité et avoir prié, c'est juste pour compléter pendant 5 minutes un message où il nous semble qu'il y a un point qui manque. Juste pour compléter. Mais ce n'est pas l'inverse. L'ordinateur qui propose tout et le Saint-Esprit qui complète pendant 3 minutes. Ou dans la voiture, le temps d'aller à la réunion. Chers amis, il faut réellement retourner à la vie spirituelle. Quelle mission le Christ a-t-il confiée? C'est une mission de vie spirituelle, d'abord. L'apôtre Pierre nous appelle à être des pierres vivantes constituant un édifice. Un édifice. Une construction spirituelle, celle de Christ. Afin de porter du fruit, afin d'apporter la bénédiction dans le monde. Il existe bien sûr des ministères, des services, etc., mais bon, de manière générale, en dehors de ce problème des ministères spécifiques, chacun a reçu des talents, soit 5 talents, soit 3, soit 1. La parabole de Matthieu 25, versets 14 à 15, révèle que chacun de nous se trouve devant un appel et aura à en rendre compte. Mais le mieux, chers amis, lorsqu'on est vraiment dans la foi avec le Seigneur, c'est d'en rendre compte tous les jours au Seigneur. C'est d'être seul à seul avec le Seigneur et de lui dire, voilà Seigneur, voilà où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai fait, des minutes, des heures qui viennent de passer. Voilà ce que j'ai été, voilà ce que j'aurais dû être, voilà ce que les rencontres que j'ai faites, voilà ce que j'ai dit, Voilà ce que je n'ai pas osé dire. Voilà ce que j'ai dit et qui est moche. Voilà ce que j'aurais dû dire, mais que j'ai pensé qu'il était trop tard, la personne était partie. Voilà, quand j'étais seul, j'ai prié, mais c'était lamentable, Seigneur. J'aurais dû prier pour mon frère, ma sœur, pour quelqu'un qui ne va pas bien. J'aurais dû prier non pas pour mes besoins, mais pour t'adorer, pour t'aimer. Avoir du plaisir, Seigneur, à te dire, je t'aime. La parabole des talents nous amène à nous rendre compte tous les jours de nos responsabilités et de notre relation personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas rendre compte plus tard quand on meurt. Qu'en est-il ? Sommes-nous un véritable témoignage vivant ? Je lis quelque chose ici, évidemment, et je le commente. Je le commente. Parce que j'ai trouvé que c'était un texte formidable. C'est dans la voie du désert. Je le commente. Prenons l'exemple de l'évangéliste Moody et de Ira Sankey. Ce dernier n'avait pas l'appel du grand évangéliste Moody. Mais sans ambition, sans aucune recherche de gloire ou d'argent, il mit simplement son talent de chanteur à la disposition du grand prédicateur Moody. Il servit humblement à sa place au milieu de ses frères. Il fut un instrument entre les mains de Dieu, ouvrier avec Dieu, auprès de M. Moody. Après une semaine de réflexion et de prière, Sankey accepta la demande de Moody de quitter son emploi pour être disponible, à temps plein, pour chanter. Oui, chanter avant que Moody ne prêche. Il disait modestement, « À la vérité, je ne suis pas musicien, pas même véritablement chanteur. Je n'ai pas fait d'études pour chanter. Il s'est trouvé simplement qu'un jour, il m'a été donné le conseil de chanter naturellement. Je n'ai recherché et je n'ai cherché à faire aucun effet spécial. Je ne chante que ce qui m'inspire, dans mon cœur et dans mon âme. Et en cela, je vais vous dire, j'ai des amis de Chalon qui improvisent, qui créent des chants. Monsieur et Madame Alves, c'est tout à fait ça. Ils ont ce don. Je choisis uniquement, et bien d'autres l'ont aussi, je choisis uniquement le cantique dont je sais par avance qu'il pénétrera au fond des cœurs. Vous avez vu ce petit monsieur Sankey. Je sais d'avance qu'il pénétrera au fond des cœurs. Là, vous voyez le charisme. Là, vous voyez le talent. Ni grand intellectuel, ni grand théologien. Un homme spirituel qui connaît les cœurs qui écoutent et qui voit ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Je commencerai à la mi-novembre, à la mi-septembre, une série de 17 conférences évangéliques dans la région. Qui aurais-je devant moi pour chanter et pour prier? Qui aurais-je, durant la prédication, en prière, à ce moment-là, et après? Vous savez, faire un message, s'il n'y a pas tous ces personnes alentour, c'est comme un poulet tout nu qui a perdu toutes ses plumes. C'est comme un canard sans plumes ou un chat sans poils. Je vous l'avoue, nous faisons partie d'un corps tous ensemble et nous avons tous des talents et nous devons tous contribuer à cette sainte mission de l'amour de Jésus pour tout le monde. Alors je vous rappelle, je ne cherche aucun effet, je ne chante que ce qui m'inspire, je choisis uniquement le cantique dont je sais par avance qu'il pénétrera au fond des cœurs. De nombreuses personnes ont témoigné du bouleversement qui les a saisis en entendant Sankey chanter. Nous lui devons entre autres le beau cantique « Oh, si vous saviez quel sauveur je possède !» Il ne se présentait pas comme un virtuose, même pas comme un missionnaire. Il ne cherchait pas à attirer toute l'attention sur lui-même. Il portait l'attention de tout le monde sur l'attention de tous sur les cantiques, sur les actions de grâce. Et les personnes reprenaient derrière lui les actions de grâce et les cantiques. Il menait la louange alors qu'il n'avait suivi aucune école spécialisée de chant chrétien et fait aucune école de théologie. Son école de théologie, c'était le Saint-Esprit et la vie avec Jésus-Christ et la parole de Dieu. La prière à genoux dans la chambre. Alors, je sais que parmi vous, je ne vais pas citer les noms, il y en a qui me demandent quelle est ma place dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Mes chers amis, c'est pour ça que je fais ce message aujourd'hui. Notamment pour une amie qui s'appelle Betty. Ce cher monsieur Sankey publia des milliers d'exemplaires de recueils de cantiques. Il donna l'intégralité des sommes perçues pour des œuvres chrétiennes. Il ne garda rien pour lui. Vous voyez la force de cet homme, c'est le désintérêt. Et je me rends compte que Dieu nous met à l'épreuve. Après l'Institut, 7 années sans salaire. J'ai eu un salaire de traitement de venant d'église, de chrétiens, de France, à travers un MEBI, que 7 ans après avoir fini l'Institut. 7 années. Et je vois que le même chemin est pris par nos 3 filles. L'école de Bénédicte et Véronique, elle travaille gratuitement. Vous me direz, c'est impossible. Elle travaille gratuitement, les amis. Bénédicte donne cours avec des lois sociales dans une école de musique à 26 élèves après journée et le week-end, le samedi. Véronique a un mari qui est ingénieur docteur et qui paye, qui gagne sa vie pour les deux. Et Noémie, son groupe d'Ukrainiens qu'elle alphabétise, ça ne lui rapporte rien non plus. Chers amis, Dieu met à l'épreuve celui qui a des talents. Lorsque je parlais tout à l'heure avec ce jeune homme de 16-17 ans, qui a été un tout petit garçon chez nous, qui a donné sa vie à Jésus à 9 ans, 8-9 ans, lors d'un culte, le voilà maintenant au double, 17 ans. Il est doué pour le piano. Quand on l'entend, les notes coulent comme de l'eau. Comme de l'eau, une source dans ses doigts. Il peut faire des merveilles pour Christ. Il ne le sait pas encore. Je voudrais bien l'aider. Je voudrais bien qu'il fasse une école de musique. Je voudrais bien qu'il soit un grand serviteur de Dieu, humble et modeste, efficace, consacré, qui amène des milliers d'âmes à Jésus. Le croyez-vous? Quand je regarde ce jeune homme, je perçois cet appel. Aurais-je la force de l'aider? Aurais-je moyen de l'aider? Il y a déjà l'école au Pakistan, etc. 135 élèves, 3 jeunes filles. Aurais-je? Peut-être. Ce mois-ci, l'école au Pakistan a reçu 1150 euros pour la nourriture, etc. Pour l'allocation de la salle, pour réparer la moto du pasteur qui fait 5 villages. C'est une famille de Pologne qui nous a envoyé l'argent. Les chrétiens qui écoutent les messages, comme vous. Si ces personnes, là-bas, servent le Seigneur, ces 3 jeunes femmes et ce jeune pasteur, que 135 enfants ne seront plus des esclaves, mais seront peut-être de très bons chrétiens en milieu islamique. Si tout cela est la multiplication des talents, grâce à cet argent venu de Pologne, grâce à cet argent venu de France, c'est la multiplication des pains et des poissons, tel que Jésus l'a pratiqué. Ce petit garçon qui venait auprès de Jésus avec 5 pains, 7 pains et quelques poissons. Finalement, cet enfant, au cœur tout simple et généreux, et qui était dirigé par la Providence, cet enfant a nourri une foule de 15 à 20 000 personnes. Parce que Dieu a béni ses talents. Vous avez des talents, il faut que Dieu les bénisse. Il faut que Dieu multiplie les fruits de vos talents. Ne cherchez pas à savoir comment. Inclinez-vous dans la prière et l'adoration. Ne cherchez pas à savoir comment. Faites-vous tout petit devant notre grand Seigneur. Faites tout petit, pas par misérabilisme, pas par manque de confiance, mais simplement parce qu'il est infiniment grand. Et que nous dépendons en lui de tout, de tout. Tout l'univers qui est créé, tout dépend de lui. Monsieur Poutine, est-il si puissant? L'OTAN, Monsieur Biden, sont-ils si puissants que cela? Vous allez voir d'ici quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir. Je suis sûr qu'ils vont être brisés par le Seigneur. Dans leur arrogance et leur injustice, ils vont être brisés. Alors, ayez confiance dans les talents que Jésus vous donne. Rendez-lui compte tous les jours de votre petite mission. Nous aurons tous une petite mission. J'en ai pas une grande. Je parle devant un téléphone. De façon maladroite. Certains ont même dit que j'étais un radoteur, un perroquet, que je disais toujours la même chose. Alors, je ne suis pas le grand théologien que certains attendent sur des grandes rhétoriques. Chers amis, faites de même. N'attendez pas d'avoir l'approbation des grandes institutions et des grands messieurs. Cherchez l'approbation de votre Seigneur Jésus. À genoux, peuple de Dieu, à genoux devant le Maître. Le seul maître, pas les hommes. Je continue à propos de M. Sankey. Une nuit durant la guerre de sécession, M. Sankey fut mis en joue, sans qu'il le sache, par un ennemi. Et cet ennemi allait tirer. Il allait le tuer. Mais cet ennemi l'entendit chanter. Il reconnut un cantique que chantait sa propre maman. Il baissa son arme. Et écouta, ce chanteur, dans les rangs ennemis, il fut bouleversé. Des années plus tard, il fit la connaissance de Sankey et il lui raconta cette anecdote de guerre et comment il avait échappé à la mort. Grâce à sa louange, à son chant. La protection divine est bien plus puissante que nous ne le pensons. Nous raisonnons de trop. Louons le Seigneur, adorons-le, inclinons-nous devant lui, humblement, profondément, sincèrement. Ses anges sont autour de nous. Sankey n'était pas un apôtre, il n'était pas un pasteur, il n'était pas évangéliste. Il mit tout simplement son talent à la disposition du Seigneur Dieu et des frères qui lui demandaient de chanter. Et nous, que pouvons-nous faire pour le Seigneur et pour les frères? La parabole de Matthieu 25 nous dit que chacun reçut selon ses capacités, ses possibilités, et non pas selon ses envies, non pas selon ses ambitions, non pas selon ses désirs personnels, ses goûts. Il ne s'agissait pas de désirer une tâche pour se montrer, pour se faire valoir, pour obtenir une place, par intérêt, en un mot, pour satisfaire la nature charnelle que nous avons tous. Mais au contraire, il s'agissait simplement de désirer servir. Chers amis, désirez servir du fond de votre cœur, de votre âme. Vous vous abaissez, Jésus vous élèvera. Notons qu'il arrive cependant dans chacun de nous que l'orgueil, la jalousie, le dépit, la déception, un désir exacerbé d'indépendance, un refus d'humilité, un refus d'obéissance ou la paresse, ça existe bien, la paresse amène certains d'entre nous à mépriser l'œuvre de Dieu, à mépriser les dons reçus et à ne pas vouloir y prendre part. Le travail proposé par Dieu manque de prestige. Le travail proposé par Dieu manque de prestige pour ceux qui réagissent comme les païens, qui sont à la recherche de leur réussite personnelle. Sur quel chemin êtes-vous ? Sur quel chemin suis-je ? Un jour on m'a dit, deux personnes m'ont dit, quand j'allais entrer dans le milieu évangélique, mais Jean, tu te rends pas compte avec cet évangile-là, c'était une religieuse catholique, tu vas perdre tous tes amis. Mais c'est comme un entonnoir, c'est large au début, tu regardes, mais c'est fin au bout, c'est un petit trou. Il n'y a plus personne à l'autre bout. Tu vas perdre tous tes amis, Jean. Et t'en as plein. Tu vas les perdre? Je lui dis, si je dois les perdre, je perdrai. Ce fut dur. Plus tard, je ne sais pas, une religieuse catholique qui m'a dit ça, pourtant j'aimais beaucoup cette femme, hein. Elle était très dévouée, très serviable. Mais pour finir, à force de rencontrer les gens et de se mettre à la sauce de tout le monde, elle ne croyait même plus à la résurrection de Jésus-Christ. Le yoga, le New Age, tout l'intéressait. L'ouverture totale, la grande tolérance. Tandis que s'intéresser aux évangéliques et devenir évangélique, c'est devenir intolérant. Je suis chemin, vérité, la vie, et alors les autres, ils ont rien du tout. Mais c'est quoi de ça? Tu vas pas devenir arriéré et mental. Voilà ce qu'on m'a dit. Plus tard, deux jeunes monsieur évangéliques, un petit peu zélés, un peu cassants, mais enfin, qui pensaient bien faire, nous ont rendu visite à ma femme et à moi, et aux enfants, et en me quittant, devant la ferme, on dit, Jean, de toute façon, tu perdras tous tes amis, Dieu s'arrangera pour que tu les perdes. Il faudra que tu sois seul avec Dieu d'abord, pour savoir ce qu'il veut de toi. Ils sont partis, je suis rentré à la maison, je lui dis, oh les vaches, quelle douche! Alors, chers amis, si on m'a dit ça, pourtant aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis, mais c'est pas les mêmes amis. Il y a eu un temps de désert, un temps de souffrance, un temps où il a fallu s'incliner, dépendre de Dieu. Le rechercher absolument. N'ayez pas peur, chers amis. Ne craignez rien. Vous vous rappelez la prédication que je vous ai donnée la dernière? Vous qui cherchez le ressuscité, c'est l'ange qui dit ça à Marie de Magdala et à Marie, l'autre Marie. Qu'est-ce qu'il dit? Vous qui craignez Jésus crucifié, qui recherchez Jésus crucifié, ne craignez rien. C'est une parabole et c'est une vérité en même temps. Il arrive que si nous nous laissons emporter par les désirs, par les frustrations, par les déceptions, nous abandonnions le chemin du Seigneur. Il arrive même qu'on ne travaille plus du tout pour le Seigneur, qu'on refuse encore de voir des chrétiens, qu'on refuse encore de voir une église, qu'on refuse de lire la Bible. Et pourtant, Dieu nous a appelés, Dieu nous a fait grâce un jour. Est-ce que, si nous avons vraiment confessé notre péché, est-ce que Dieu va nous lâcher? Non. Il va nous rattraper. L'intelligence et la puissance de Dieu sont bien plus grandes qu'on ne pense pour rattraper sa brebis perdue, C'est ça la parabole du berger qui va rechercher la centième brebis perdue. La fidélité et la puissance de Christ sont capables de ramener un chrétien égaré sur le chemin. Et vous, vous pouvez aussi participer à l'œuvre de Christ pour ramener un chrétien égaré vers le Seigneur et vers le corps de Christ, son assemblée. Maintenant, pensons à quelqu'un d'autre, comme Ésaü. Ésaü vendit son droit d'aînesse. Oui, il avait un talent. Le talent, c'était d'être l'aîné et d'avoir le droit d'aînesse, de porter le nom de la famille, et peut-être il aurait pu avoir toutes les promesses faites à Abraham et à Jacob. Pardon, à Isaac. Mais ce cher monsieur aime jouir de la vie. Ce cher monsieur veut profiter. Mangeons et buvons, après nous mourrons, on verra bien. Et cet homme qui avait eu un talent, il savait que Dieu existait, il savait que Dieu avait une trajectoire pour lui. Eh bien, il a méprisé ce talent. Ésaü se permit de juger tous les autres. Il entra en colère, il devint meurtrier, et ses descendants devinrent des meurtriers aussi. Monsieur Sankey n'est peut-être pas connu autant que Monsieur Moody. Monsieur Moody, université, etc. Mais Monsieur Sankey a fait un travail considérable pour le Seigneur. Et au ciel, Monsieur Moody n'est pas plus haut que lui. Monsieur Moody n'est pas sur un piédestal, Monsieur Sankey en bas du piédestal. Tous, nous sommes des frères, tous, nous sommes des sœurs, tous, nous sommes appelés à la gloire du Seigneur, à part égale. Que nous soyons rentrés dans la vigne à 6h du matin, à 9h, à midi, à 15h, à 17h, vous connaissez cette parabole, tout le monde a reçu le même salaire, tout le monde a le même héritage céleste en Jésus-Christ. Alors, chers amis, servons. Aimons, aidons les autres, non pas tout seul, non pas dans son coin à soi tout seul, non pas dans ma petite affaire évangélique à moi, non pas avec une vision déformée, étroite, non, qui peut exister dans certains milieux religieux, dans certaines églises, non. Non pas non plus laxiste, ouvert à tout. Tant qu'on aime, tant qu'on rend service, on est tous des frères. Alors le grand écuménisme, c'est la grande misère. Puisque la croix ne sert plus à rien. Seul l'amour fraternel compte. Non, chers amis, nous avons à servir Jésus-Christ et nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Nous mettons de côté notre esprit d'indépendance, notre esprit de clocher, notre refus de partager, notre manque d'humilité, et nous pouvons amener d'autres à travailler et avoir une vision d'église, une vision de famille d'église. Pour y parvenir, il faut que chacun vive une véritable conversion, une véritable transformation, une véritable repentance. Cher ami qui m'avait demandé comment je peux vivre dans l'église, quels sont mes dons, quel est mon ministère? Le seul ministère qui vous est demandé, c'est la repentance. La métanoïa, le changement. Dieu se sert d'un vase d'honneur purifié par le sang de Jésus. Dieu n'a pas besoin de mon moi qui veut compenser quelque chose qui m'a manqué dans la jeunesse, d'un moi en recherche d'accomplissement. Dieu n'a pas besoin d'un moi charnel, ambitieux, ou d'un moi idéaliste, d'un moi peut-être trop généreux, mais pas inspiré du Saint-Esprit. Non. Dieu a besoin d'un moi en Christ. Comme dit Paul dans Galates, chapitre 2, verset 22, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chers amis, il faut accepter de donner sa vie à Jésus. Alors, Jésus nous met à la place qu'il faut. Il ne faut pas chercher à prendre une place, à exiger une place. Jésus a dit ceci, « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, il reste seul. Il s'auto-consume égoïstement, il pourrit sans donner de fruits. Mais s'il accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. » Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Si nous avons aimé Jésus-Christ, nous avons confessé notre péché, nous l'avons accepté dans notre vie. Nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous des signes de la présence de Dieu aujourd'hui sur terre. Au milieu des frères et des hommes, même des incroyants, même des gens hostiles. Oui, tous, nous avons une tâche. Et nous sommes beaucoup plus nombreux que nous ne pensons à avoir des talents et à avoir une mission. Reprenez confiance, mes amis. Reprenez confiance. Jésus a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Le même amour qui a mobilisé les apôtres, le même amour est à notre portée. Ils ne sont pas des super-hommes, ceux que Jésus a choisis. Elles ne sont pas des super-femmes, celles dont les évangiles nous parlent. Ce désir de servir nous amènera toujours plus à la droiture, nous amènera toujours plus à la sainteté, à la simplicité, à l'authenticité dans les relations. Et ce désir de servir authentique, agi par le Saint-Esprit, nourri dans la prière et la parole, nous amènera toujours à une vie plus équilibrée, plus saine. Psaume 111, verset 11. Celui qui a crainte de Dieu possède une raison saine. Il n'y a pas besoin de psychiatre, de psychologue, vous voyez bien. Une vie équilibrée, saine, rayonnante pour la gloire de Dieu. En Dieu. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Que notre vie, chers amis, que notre vie, soit humblement salée. Une viande, avant que les congélateurs n'existent, une viande dans laquelle on ne mettait pas de sel, elle pourrissait, les vers venaient. Un poisson qu'on voulait conserver et qu'on séchait, il fallait mettre du sel. Tout, il fallait du sel pour le conserver. À travers les déserts, les caravanes faisaient des centaines, des milliers de kilomètres pour aller chercher du sel et pour l'apporter dans toutes les tribus, pour conserver les aliments dans le sel. Et parce que le corps a besoin de sel, dans le sel, il y a du chlorure et du sodium, deux composants importants de notre organisme. Vous savez, un des grands drames de la France, c'est avec Louis XIV. À un moment donné, dans toutes les campagnes de France, on manquait de sel. Les Français manquaient de sel pour conserver leurs aliments, quand ils tuaient le cochon, quand ils avaient du poisson, etc., pour mettre dans leurs aliments. Eh bien, le roi de France, Louis XIV, donnait du sel aux populations à condition que les familles donnent des jeunes gens dans les armées du roi de France. Des jeunes gens, des gamins qui étaient gentils, qui étaient bien éduqués, ont été embarqués dans les troupes du roi de France pour aller faire des batailles à droite et gauche pour rien qu'une question de sel. Saviez-vous cela? Que Louis XIV et tous ses combinards, alentour de lui, tenaient la population avec la question du sel? Et plein de jeunes gens ont été faire la guerre à contre-cœur pour que leurs parents aient du sel. Vous pensez que le sel, c'est une bagatelle? Eh bien, non, pas du tout. Oui, aujourd'hui, nous avons les congélateurs, les frigos. Et si, il n'y avait pas d'électricité pendant 3-4 jours? Nous devrions retourner à la conservation par le sel, par le séchage. Donc, ayons du sel en nous, mais ne vendons pas nos enfants aux maîtres de notre société pour avoir ce sel. Ne faisons pas comme à l'époque de Louis XIV, ne vendons pas nos enfants à notre société pour avoir le confort, pour avoir ce qu'il nous faut, entre guillemets. Notre vie doit être humble. Nous avons le sel dans la parole de Dieu. Nous avons le sel en Jésus-Christ. Nous avons le sel de la terre. Nous avons la lumière du monde. Nous avons la parole de Christ. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Nous avons la parole de Christ. C'est celle-là qui doit nous saler. Mettons nos corps, nos âmes à la disposition du Seigneur et il les salera. Mais ne vendons pas nos enfants à notre société. Pourquoi dit-on éducation nationale? L'éducation, c'est les parents qui doivent donner l'éducation. La nation doit être au service des parents et de la famille. Pourquoi a-t-on déformé ce logo? Pourquoi a-t-on mis la main sur les enfants? Pour qu'ils n'appartiennent plus à Dieu? Pour que les talents que Dieu donne ne se développent plus? Chers amis, résistez-y, il faut se ressaisir. Recevons avec Dieu ce que Dieu nous donne, humblement, avec humilité et fidélité pour sa gloire, pour le bien de nos enfants. Mais faisons attention, comme à l'époque de Louis XIV, de donner nos enfants à la nation, parce qu'il nous fallait du sel. C'est-à-dire aujourd'hui de l'argent et du confort. Et pignon sur rue. Sommes-nous réellement dans la bénédiction? C'est à vous de répondre. Il faut la chercher, la bénédiction. Et il faut recevoir la bénédiction. Vient du Seigneur, dans les mains tendues qui reçoivent les talents. Mais si vous avez tout de la société, dans une parfaite complicité avec la société, qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Vous savez, chers amis, que dans la première épître de Jean, il est clairement mis que nous ne devons pas aimer le monde. Mais ça a coûté la vie. Aux chrétiens, ça a coûté la vie, chers amis, à tous ces chrétiens. Alors, chers amis, je vous lis ceci, première épître de Jean, chapitre 4. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, les antéchrists. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Continuons dans le chapitre 4. Verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Chers amis, croire selon la méthode de vie évangélique, pas croire en idée, pas croire comme un disque qui tourne dans notre tête. Nous devons nous méfier du monde. Nous devons nous méfier du monde. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Vous savez, l'explication à propos des talents, c'est souverain, c'est l'évangile du début du christianisme. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Mes chers amis, oui, j'ai reçu des critiques en disant que j'étais un rat d'auteur et un perroquet qui se répète toujours. Tant pis, je préfère aimer Dieu que chercher les louanges. Mais vous-même, cherchez Dieu, aimez-le, plus que toute autre chose. Aimez vos frères et vos sœurs, aimez ceux qui font inventer les recherches, qui la mettent en pratique. Faites corps avec tous ceux qui ont cet amour de la vérité. Mais si un frère n'est pas en ordre, ayez la simplicité et le courage de prier pour lui. Et si, au bout d'un certain temps, première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, donc en Christ, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, sainteté, obéissance, est né de lui. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 28 et 29. Gloire à Dieu. Soyez bénis en toutes choses, dans une parfaite obéissance au Seigneur.